Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Binge Audio.
Salut les mauvaises personnes. Je sais pas vous, mais moi, il y a un domaine de ma vie où j'ai constamment l'impression de pas faire ce que je devrais faire, c'est le sexe. Ça a commencé à l'adolescence, avec le stress de la première fois. Quand j'ai appris qu'il existait une statistique de l'âge médian du premier rapport sexuel, c'est 17 ans pour les garçons et 17 ans et demi pour les filles, je me suis direct mis grave la pression. Je me disais qu'il fallait absolument que je sois dans la moyenne. Ça a continué ensuite, quand je suis tombée amoureuse, quand j'ai appris l'existence d'une autre statistique, que les gens en couple font l'amour environ 2,3 fois par semaine. Encore une fois, il fallait absolument que je sois dans la norme, dans la moyenne. Évidemment, toutes ces statistiques ont une vision à l'ancienne de ce qu'est un rapport sexuel. Ça veut dire qu'il implique forcément une pénétration. Ce sentiment de pas faire les choses correctement, il a continué toute ma vie en fait. Quand je suis dans mes périodes olé olé ou que j'appelle aussi mes périodes Judas la chaudasse, je me traîne toujours un fond de culpabilité judéo-chrétienne ou d'auto-slut-shaming. Quand je suis en mode tranquillou, je me dis que quand même, je suis pas normale de si peu pécho. Quand je me laisse aller à partager des fantasmes inavouables, je me dis que je suis bien bizarre d'avoir ce genre de pensée. Et qu'ils sont pas toujours très féministes les scénarios que j'élabore, comme celui où je me fais attacher par l'ensemble des princes Disney et encore, je vous raconte pas la suite. Étoile de mer ou salope, bonne sœur ou fille facile, trop coincée ou trop dévergondée, quoi que je fasse, je me sens quand même plus ou moins en faute, plus ou moins en échec. Et vous mes très chères mauvaises personnes, qu'est-ce qui se passe dans vos lits à vous? Est-ce qu'en plus d'être de mauvaises personnes, vous êtes aussi des mauvais coups? Votre vie sexuelle est-elle un échec? Et est-ce que c'est si grave? Quel impact a notre sexualité sur notre santé mentale? Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais prendre le temps d'une petite précaution. Nous allons, avec notre invité, parler de la sexualité, et notamment de la sexualité des hommes et celle des femmes, et évoquer les différences entre elles. Nous ne cherchons pas à essentialiser ces différences, en mode les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais plutôt à analyser et à décortiquer les différentes injonctions et attentes qui pèsent sur nous, pour mieux essayer de nous en libérer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Self Care Ta Mère, le podcast mal-être de Binge Audio. Tous les mois, nous nous retrouvons pour échanger sur notre santé mentale sans tabou ni angélisme. Pour parler sexualité, fantasmes et mauvais coups, souhaitons la bienvenue à mon adorable petite meute composée de Coco Spina. Salut Coco!
Bonjour.
Coco, tu es journaliste et tu es surnommée la Gwyn Réac dans le milieu.
Oui.
Voilà, un surnom qui va te suivre toute ta vie. Et tu as fondé le Média Queer Manifesto 21. Samuel Doc, salut Samuel.
Salut Judith.
Samuel, toi tu es psychologue clinicien, auteur de nombreux ouvrages dont Les chemins de la thérapie. Contrairement à Coco et moi, toi tu es un vrai psy, donc tu sais à peu près de quoi tu parles.
Parfois.
Parfois, voilà. Et pour cette édition consacrée à la sexualité, nous avons la joie de recevoir Philippe Arlin. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Philippe, vous êtes sexologue, auteur de Sexuellement incorrect, le sexe n'a pas de genre. J'aimerais commencer peut-être par vous poser une question à vous, Philippe. Dans votre cabinet, est-ce que c'est une crainte que vous rencontrez avec vos patients, la crainte de rater sa vie sexuelle?
C'est même quelquefois la raison pour laquelle on franchit la porte de mon cabinet. C'est-à-dire que les réussir la vie sexuelle peut devenir en soi un problème pour lequel on consulte. Ça tourne à l'obsession quelquefois parce que chacun a en plus de la réussite de sa vie sexuelle une image déformée, bien sûr, et surtout une image héritée soit de sondage, soit d'opinion, soit de croyance. Et on vient dans mon cabinet fort de ces images, ayant l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est un gros problème en sexualité. On a toujours peur de passer à côté de quelque chose et avec une difficulté à apprendre à se satisfaire et à jouir de ce que l'on vit.
Dans quelle situation est-ce que les personnes parlent d'échec dans leur sexualité ? Est-ce que c'est quand ils n'ont plus de rapport ? Est-ce que c'est quand ils ne sont pas satisfaisants ? Quand ils n'ont pas fait de trucs complètement dingues ? Qu'est-ce qui vient nourrir ce sentiment d'échec ? Peut-être Philippe et après Samuel ?
Un peu les trois. C'est vraiment, ils vont soit être en difficulté, donc ce qui va être un peu mon rôle de sexologue, de travailler sur les pannes, les douleurs, les incapacités, les complications, mais les difficultés, elles viennent toucher qu'un aspect très coït, très pénétration de la sexualité et rarement la sexualité dans sa liberté. Donc, des fois, c'est à cause de ça. Des fois, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de partenaire ou ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas assez ou pas assez de rapport ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser un fantasme qui leur tient à cœur. Et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément la part des choses entre eux ce qui devait être vécu ou pas vécu de l'ordre des fantasmes.
Et alors, Philippe, on relie souvent l'échec sexuel au fait de ne pas avoir beaucoup de relations. Comment démentir cette pensée ?
Alors, c'est très difficile, c'est peut-être même la pensée la plus difficile à démentir. Là, ça demande de faire un travail et de comprendre la différence entre une réponse à une pulsion, c'est-à-dire cette envie qui jaillit comme ça, qu'on n'interprète pas la pulsion qu'on va avoir pour un aliment. J'ai faim, je m'attrape un truc, je grignote. Il y a de la sexualité grignotage et la sexualité épanouie, approfondie, dans laquelle on prend le temps de ressentir, de vivre, de découvrir. Et celle-là, elle n'a pas besoin d'être répétée tous les jours. Celle-ci, elle demande un investissement et cet investissement, on ne peut pas se l'accorder tous les jours, tous les deux jours. Donc, ça dépend aussi sur quel registre on fait intervenir notre sexualité, notre réponse.
Mais et du coup, si on veut une sexualité grignotage ou alors une sexualité plus épanouie, peu importe, est-ce que si on a envie d'avoir une sexualité mais qu'on n'y arrive pas, parce qu'objectivement, on se rend compte que personne ne vaut de nous sur le marché amoureux, on va dire, et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce que dans les deux cas, on peut ne pas savoir comment faire. Est-ce qu'on peut parler d'échec ?
En tout cas, c'est comme ça que ça sera vécu. Oui, je crois qu'il faut parler d'échec, de non-conformité entre ce qu'on ressent comme un besoin, parce qu'il y aurait long à dire sur la notion de besoin, mais ce qu'on ressent comme un besoin et la non-réponse en face, parce qu'on n'arrive pas à séduire, parce qu'on n'arrive pas à aller aux bons endroits. Donc, il m'arrive aussi de donner des conseils très pratico-pratiques pour peut-être aider les gens à évoluer dans un endroit qui va leur permettre d'avoir une réponse positive à leurs besoins.
Pour se prendre moins de râteaux, vous leur dites comment se faire pour se prendre... Comment on fait alors pour se prendre moins de râteaux ?
Oui, c'est ça.
Bien sûr, entre autres.
Alors, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil ?
Ah ben, ça dépend ce qu'ils me demandent. Mais en fonction pour reprendre l'idée de cette sexualité un peu pulsionnelle, il y a aussi des gens qui veulent une sexualité pulsionnelle, mais qui, dans la même phrase, vont vous expliquer qu'ils ont besoin d'avoir des sentiments pour coucher avec quelqu'un. Donc, c'est simplement de dire qu'on ne peut pas et grignoter et faire un repas de famille le même jour. C'est pas la même chose, c'est pas la même organisation. Si on a réellement besoin d'investir son affectif, eh bien, il faut y réfléchir et peut-être questionner c'est quoi cette pulsion et est-ce que je ne peux pas y répondre de manière satisfaisante, seule ? Parce que la masturbation est une part de sexualité.
Là où je m'interroge un peu, Philippe, par contre, sur votre propos, c'est quand vous parlez des fantasmes qui doivent être faits ou pas faits, des pulsions qui doivent être réalisées ou pas réalisées, je me demande qu'est-ce qui vous fait dire en fait ce qui doit être réalisé, ce qui ne doit pas être réalisé ? Comment est-ce que vous fixez le curseur de ce qui doit être et de ce qui ne doit pas être ? J'ai du mal à comprendre.
Alors, déjà, je ne le fixe pas moi, mais j'essaye de déterminer la part de ce que les gens appellent fantasme et qui n'est que de l'imaginaire sexuel, de l'imagination, du désir, de la projection, et qui du coup fait partie des choses tout à fait viables, du fantasme qui est la chose qu'on s'interdit. C'est-à-dire ces fantasmes qu'on garde au fond de soi, qui sont des interdits, des tabous, qui sont vraiment la pulsion psychique qui se libère pour éviter d'être vécu justement dans le quotidien. Donc pour moi, les patients mettent le même nom. Ils mettent le même nom sur « j'ai le fantasme de faire une fellation à trois personnes de suite », ce qui en soi n'est qu'un imaginaire de pratique et il n'y a pas de raison de ne pas trouver le moyen de le vivre. à j'ai un fantasme de mort, de faire l'amour avec un cadavre. On peut se retrouver sur des choses extrêmement interdites, qui sont même interdites par notre propre psyché, mais qui pour autant existent, avec lesquelles on doit cohabiter, ce qui est le propre même du fantasme, cette espèce de dimension psychique.
Samuel. Je vais m'éloigner de cette thématique-là pour juste rappeler, en tout cas, que la variété sexuelle humaine existe et qu'elle est importante et qu'elle est souvent le signe d'une vie psychique fertile et féconde. Et ça, je pense que c'est important et qu'elle est aussi traversée par le politique. Nos imaginaires érotiques sont traversés par nos représentations culturelles, par un ensemble de lois aussi. Et tout ça, ça compte. Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point la scène politique s'invite dans la scène sexuelle. Il faut pas oublier, on parle de ce fantasme, vous dites, voilà, on peut avoir ce fantasme, par exemple, de sucer trois personnes, ok. Certaines personnes vont le considérer au moins autant aussi interdit parce qu'il y a certaines morales civilisationnelles, alors souvent d'origine religieuse d'ailleurs, qui vont venir sanctionner en fait ce fantasme-là, sanctionner aussi l'identité sexuelle. Je veux dire, moi-même par exemple, je l'ai vécu au début quand j'ai découvert que j'étais homosexuel. Je vivais cela avec une immense culpabilité. Mes fantasmes concernaient le fait d'avoir des rapports sexuels avec des hommes. Je le vivais extrêmement mal, comme une sorte de malédiction qui m'était tombée dessus. Tout à coup, ça y est, j'étais passé de l'autre côté, j'étais un anormal et il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse cheminer vers ma propre identité, pour que je puisse me rendre compte que si je pensais que c'était mal, c'est parce que toute une tradition absolument horrible et politique, pendant des années, en avait fait une maladie mentale, une perversion. Je me sentais pervers parce qu'un monde entier avait consacré mon identité comme une perversion.
Je rappelle d'ailleurs que l'extrême droite considère encore, met sur le même plan, l'inceste et l'homosexualité parfois, donc...
Non, vous avez bien raison de rappeler tout ça. Alors, pour revenir à une notion qu'on évoquait tout à l'heure, c'était celle de la notion de besoin sexuel ou de soi-disant besoin sexuel. Dans votre livre, Philippe, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que vous expliquez que cette notion de besoin sexuel, elle est souvent présentée par les hommes hétéros un peu comme une excuse quand ils sont en couple pour que leur meuf soupienne au moindre de leur désir. Et vous expliquez que non, en réalité, on n'a pas vraiment de besoin sexuel. On a besoin de manger, mais on n'a pas vraiment besoin de faire l'amour pour vivre.
Le mot besoin, c'est vraiment ce mot effectivement qui va être utilisé par l'homme avec un petit regard de pitié en disant mais tu comprends pas, moi j'ai besoin, donc si tu réponds pas, y a de sous-entendu toutes les menaces, je vais peut-être être obligé d'aller voir ailleurs, je vais me masturber, ce qui pour certaines femmes est extrêmement bloquant aussi. Donc il y a tout un héritage de ça. Dans la réalité des faits, on peut vivre sans sexualité. Là aussi, c'est une construction, et on a une construction au niveau de notre société. Quand on voit les personnes qui se disent ou se définissent comme asexuelles aujourd'hui, il n'y a pas énormément de place pour ces personnes dans la sexualité. On a l'impression qu'il est quand même impératif et normal d'avoir une sexualité, et on construit encore aujourd'hui au XXIe siècle quelque chose qui résume bien la problématique. On parle de consentement, mais on n'en parle que pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont vraiment celles qui répondent, qui doivent dire oui à ce que l'homme a initié dans la sexualité.
Je me permets de réagir parce que j'imagine, je le fais avant que Judith et Coco réagissent. Je pense qu'on parle surtout du consentement par les femmes parce que la plupart du temps, ce sont quand même elles qui sont violées. Hein. Je le remets juste les choses à leur place.
Oui, il faut l'entendre dans ce que ça ne dit pas, c'est-à-dire que ça n'interroge jamais l'envie des femmes.
Non, là où je suis d'accord avec vous, c'est que quand on nous présente comme détentrices uniquement du consentement, ça veut dire qu'on n'est pas non plus celles qui sont à l'origine de l'initiatrice. C'est déjà évidemment, alors remets toutes les choses à leur place, évidemment c'est déjà il faut parler du consentement, bien sûr, mais il faudrait aller encore plus loin en fait. Il faudrait pas qu'on soit amené à consentir à un rapport, il faudrait qu'on soit amené à en avoir tellement envie.
Exactement,
que c'est nous qui plaquerons le mec contre le mur, quoi. C'est ça qu'on veut.
Et justement, je me permets de poser la question, est-il pertinent de continuer à biologiser les désirs avec cette idée que les mecs doivent se vider les couilles?
Eh ben, c'est bien la problématique, elle est là, c'est que si on en vient à interroger le consentement parce qu'il y a des abus, il y a des viols, et que donc il y a des hommes qui estiment que parce qu'ils ont besoin, ils se servent, ça prouve bien qu'on est dans une sexualité où on estime normal, ou en tout cas on cautionne, on commence juste à interroger le fait de ne pas cautionner le fait que les hommes aient des désirs et trouvent un moyen d'y vivre. Et donc il est très important d'arrêter de sexuer le désir. La femme a envie, l'homme a envie, on est deux, il est très important d'arrêter, exactement comme vous le dites, de parler de l'homme et de valider par là même cet impératif qu'aurait l'homme à se vider les couilles et qui pourrait justifier des comportements qui n'interrogent même plus le consentement de l'autre.
Philippe, vous avez consacré un de vos livres à la perte de désir dans le couple chez les femmes hétéros. Et je prends l'histoire de Serge et de Rachel qui nous illustre que Rachel a une perte de désir et qu'elle dit clairement qu'elle est épuisée de gérer les gosses toute seule. Les inégalités dans le partage des charges domestiques sont-elles à l'origine de l'abdication sexuelle de certaines femmes ?
Alors, elles ne sont pas à l'origine de l'abdication sexuelle de certaines femmes, mais elles sont à l'origine du retrait de certaines femmes du désir sexuel.
Bah, c'est sûr que tu n'as pas envie de ton mec s'il se comporte comme
oui.
un gamin. Quoi.
En fait, la sexualité, elle ne se passe pas uniquement dans la chambre à coucher, c'est-à-dire que ça commence bien avant, que c'est tout un climat qu'on instaure, un moment
Exactement.
De dialogue, je pense.
Oui. Exactement. C'est-à-dire que moi, ce que j'explique, c'est que cette charge mentale, j'explique à travers ce que j'appelle la tour du désir, c'est-à-dire les différents niveaux par rapport au désir. C'est quand on est dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme si notre désir, c'était notre téléphone, on le met sur silencieux. Et comme ça, on n'est pas dérangé. Et ce que j'observe, c'est qu'effectivement, les femmes ont pour habitude de mettre leur désir sur silencieux parce qu'elles ont 10 000 choses à régler et que donc ça n'est pas leur priorité. Leur priorité, ce n'est pas de répondre à la sexualité. Donc, elles sont déconnectées, c'est-à-dire elles n'ont même pas conscience de leur propre désir.
C'est-à-dire la charge mentale est déjà tellement lourde à gérer qu'on n'a pas le temps de penser à ce qu'on aimerait.
Voilà, mais c'est un peu, si on ne veut pas être dérangé en réunion, on met notre téléphone sur silencieux. Je suis en train de faire un truc qui est prioritaire pour moi, je n'ai pas envie d'être emmerdé par la sexualité. Donc, je le mets, mon désir en off.
Mais en plus, parce que ce que vous décrivez là dans le livre, c'est que si on doit s'occuper, et moi je les comprends, c'est nana, quand, si tu dois t'occuper de ton mec comme d'un deuxième gamin, c'est-à-dire s'il faut laver ses chaussettes et passer derrière lui à table, enfin, c'est pas du tout excitant, quoi. Enfin, ça paraît à la base de dire ça, mais c'est quand même pas du tout excitant.
Mais est-ce qu'il faut genrer pour autant cette problématique-là ? Je sais pas, parce que c'est vrai que les femmes, vous avez raison de le dire, et je le vois moi-même en consultation, ont des charges mentales épouvantables. Les hommes aussi, de bien des manières. Moi, je me demande si c'est pas tout simplement la routine du quotidien qui nous fait oublier le désir. Jacques Lacan, ce grand psychanalyste, nous l'a quand même enseigné. On désire ce dont on manque. Et quand on vit avec une personne, qu'on est H24 avec elle, ou en tout cas souvent, qu'on la voit tout le temps, elle perd un peu de son mystère. Et tu posais cette belle question... Judith, tu demandais comment, quelque part, réenchanter un peu l'univers du désir du couple. Bah déjà, en soutenant ce mystère-là, avec cette variété aussi érotique, en maintenant peut-être aussi une pudeur. Alors ça, je sais que je surprends toujours quand je dis ça, mais je pense que, par exemple, les personnes qui se voient aller aux toilettes, qui passent leur temps à faire le ménage, les machins, enfin, voilà, maintenir une certaine forme de distance aussi, ça peut contribuer à recréer du désir, mais la routine est indubitablement le fléau du désir partagé.
Pardon, mais plus que la routine, moi, ce que je vois dans la question de Rachel, c'est quand même le système hétéropatriarcal, c'est vraiment l'idée de sortir du système de l'hétérosexualité mentale, parce que bien sûr, on peut être une personne hétéro et être sortie de l'hétérosexualité mentale, comme le dit Juliette Drouard dans Sortir de l'hétérosexualité. Et donc, plus que la routine, plus que le genre, pour moi, c'est vraiment la question de qu'est-ce que l'hétéropatriarcat fait à notre intimité, en fait.
Moi, je suis vraiment d'accord avec les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois sortir de la routine, mais pour pouvoir sortir de la routine, il faut qu'il y ait un espace pour la femme pour pouvoir justement réinvestir un domaine qu'est la vie privée. Or, si elle doit se taper toutes les tâches, et là on retrouve l'hétéropatriarcat, c'est-à-dire si on est dans une répartition des tâches domestiques qui est tout du côté des femmes, elles n'ont pas cet espace, elles n'ont pas ce temps, et j'explique dans mon livre que ce qui est important, c'est de se donner du temps. Si on veut que le désir réapparaisse, il faut aussi lui faire de la place, et s'il y a une surcharge, il n'y a pas de place. Sur le désir, il y a quand même quelque chose auquel il faut quand même faire attention, c'est qu'il y a deux types de désirs. Il y a un désir qui consiste à répondre à une envie que j'ai à l'intérieur. Si on prend la nourriture, c'est très simple. J'ai faim, il y a quelque chose qui arrive comme une pulsion de l'estomac qui est interprétée par mon cerveau et autour duquel je vais établir un désir et je vais me retrouver à aller manger japonais avec des amis. C'est une réponse à une simple pulsion, j'ai faim. Et puis, il y a le désir qui vient de l'extérieur. Je sors du restaurant, je passe devant une pâtisserie, il y a un magnifique gâteau dans la pâtisserie, et là, je vais générer le désir d'avoir du plaisir en mangeant ce gâteau. Là, je ne réponds pas à un désir intérieur de manger, je réponds à un désir extérieur. Et le problème dans le couple, c'est qu'on demande souvent à son partenaire ou à sa partenaire d'être comme le gâteau dans la vitrine. Ben, il y a un moment, on ne peut pas être toujours le gâteau dans la vitrine. Quand on se mange au quotidien, le gâteau dans la vitrine, il finit par être beaucoup moins appétissant et c'est difficile de le rendre toujours appétant, d'où l'importance de respecter effectivement la pudeur, de respecter une scénarisation, l'imagination. Oui.
Samuel, un sujet dont on a souvent parlé ensemble, qui te tient, je crois, un petit peu à cœur, c'est celui du fétichisme. Est-ce que ça peut être un espace où se libérer justement de ces carcans de genre, de ces carcans de couple, de ces carcans d'éducation, de l'ensemble de ces carcans?
Oui, merci beaucoup Judith de poser la question. C'est vrai que j'ai soutenu ma thèse universitaire sur le thème du fétichisme et ça me permet aussi de rebondir sur ce que disait Coco précédemment sur la question du patriarcat, parce que moi je suis un grand lecteur de cette anthropologue Gail Rubin qui est extraordinaire et qui explique comment le patriarcat détermine le bon et le mauvais jouir, comment les femmes et les hommes peuvent se retrouver piégés par une sexualité hétéronormative sans accessoires, uniquement à visée génitale. Voilà. Et au milieu surgit effectivement cette question du fétichisme.
Le fétichisme, tu le définirais comment ?
Comme la quête d'un objet qui va soutenir ou favoriser la jouissance sexuelle, mais ça va au-delà puisque, par exemple, on peut très bien avoir besoin de cet objet à des fins identitaires pour se soutenir au quotidien. Si on pense par exemple, un fétichiste du latex, il aura plaisir, besoin d'emporter, même en dehors de l'acte sexuel. Et c'est vrai que c'est ce que je pense, et je reprends l'expression de Gail Rubin, le fétichisme, c'est ce qu'elle appelait une sexualité dissidente, c'est-à-dire une manière de repenser le politique, de redistribuer les cartes et de rejouer au lit, d'inverser les mécaniques d'oppression et surtout de se reconstituer, que ce soit à travers les traumas singuliers qui ont pu émailler l'existence, mais aussi certaines blessures politiques. Je pense à une des personnes que j'ai interviewées pour ma thèse, que j'appellerai Giulio, qui a grandi dans l'Italie conservatrice et qui explique, alors lui son fétichisme c'était le fétichisme des super-héros. Pour jouer il avait besoin d'être habillé en Spider-Man et il explique oui c'est vrai que c'est un peu le réflexe et c'est parfois dommage.
Pas de fétichisme,
voilà.
Vas-y, continue.
Mais bref, du coup il explique qu'il y a cette idée de sauver l'autre, comme lui n'a pas pu être véritablement sauvé lorsqu'il souffrait tellement d'avoir grandi dans un milieu oppressif. Donc là, on a vraiment, je trouve, une belle métaphore de cette reprise du scénario érotique qui va venir renverser quelque part la scène oppressive.
Il y a aussi une autre question que je me pose, moi, qui est liée à mon histoire, que ce que je vous ai raconté en introduction. C'est que je pense qu'on devrait interdire, par exemple, ces statistiques sur l'âge du premier rapport sexuel supposé des adolescents. Et moi, je trouve que ça met une pression aux jeunes personnes, aux jeunes adolescents. Ensuite, ça inscrit comme norme ce que doit être un rapport sexuel, ça veut dire une pénétration. Et je pense que c'est aussi une façon d'avoir quand même un contrôle en tant qu'adulte sur la sexualité des jeunes personnes, en sachant un peu ce qu'ils font dans les chambres à coucher, en gardant un regard, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ?
Moi, je pense que c'est catastrophique parce que les gens viennent pollués par ces chiffres, pollués par ces idées reçues de ce qui serait normal de faire ou anormal. Mais ça va de ces sondages à ces injonctions à jouir sur la une des magazines. Il faut avoir des orgasmes, il faut avoir... On ajoute sur la sexualité en permanence des injonctions qui sont évidemment les injonctions de la société. C'est éminemment, extrêmement politique. Mais moins on y a accès et plus on peut peut-être trouver un champ plus libre d'élaboration. En tout cas, ce qui pèse sur la sexualité des ados en termes de chiffres et de sondages, c'est extrêmement, pour moi, extrêmement toxique.
On est d'accord. Coco ?
Oui, dans votre livre « Libérer votre désir », vous écrivez « La liberté est fraîche, on s'inquiète de la part de soi qui pourrait s'y révéler ». Qu'entends-tu par cette phrase, Philippe ? Et c'est aussi peut-être pour rejoindre le fétichisme dont on parlait tout à l'heure.
C'est exactement pour rejoindre le fétichisme dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a dans notre richesse, dans notre psyché est complètement sexuée, comme ça nous l'a dit, et il y a des libertés, des envies qui nous font peur, et il y a des portes qu'on n'ose pas ouvrir parce qu'on pourrait y découvrir quelque chose. Et le fétichisme en fait partie, il est porteur, pour moi, c'est l'objet tiers qui va révéler énormément de nous-mêmes, qui va nous apporter un plus plaisir, mais aussi un plus dimensionnel. Alors, il y a l'objet tiers qu'on va vivre uniquement dans sa sexualité, mais il y a celui, effectivement, comme il disait, qu'on va garder avec nous, qu'on va avoir besoin de mêler à notre quotidien. Et cette peur de la liberté, c'est l'inconnu. Qu'est-ce que je pourrais découvrir? Qu'est-ce que je vais savoir de moi ou trouver en moi si j'ouvre cette porte? Elle fait peur, et comme les fantasmes peuvent faire peur.
Dans votre livre, il y a une histoire qui m'a touchée, c'est celle de Lucie. Lucie qui est tellement dégoûtée par son corps qu'elle renonce presque à une vie sexuelle. Et moi, cette histoire m'a touchée parce que je pense qu'elle a fait écho à des périodes de ma vie, et je pense à celle de beaucoup de femmes, où les moments où on se trouve chum, où les moments où on se trouve moche, où on a tellement intégré de grossophobie, donc quand on a pris 3 kilos, on n'a plus envie de faire l'amour. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de... Quand on est une femme, je ne sais pas, c'est sans doute aussi le cas pour les hommes, vous allez nous dire, mais d'assez tragique de se dire que même quand on est dans un rapport sexuel, on pense d'abord à être soi-disant agréable à regarder avant de penser à son propre plaisir. Et moi, j'aimerais, et j'en suis pas encore là, mais j'aimerais arriver justement à me libérer de cette peur-là, de cette injonction-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez vu des femmes s'en libérer? Philippe, et puis après Samuel.
Alors, moi, oui, j'ai eu la chance de voir des femmes s'en libérer. Pour autant, ça reste un faible pourcentage parce qu'il y a tellement d'injonctions qui pèsent sur les femmes, sur l'apparence, mais aussi sur, j'ai envie de dire, un des obstacles que les femmes vont devoir dépasser, c'est celui de se voir excitées. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, quand elles se sentent dans la pulsion sexuelle, dans l'animalité qui peut venir dans le rapport sexuel, se font peur, se dégoûtent, ça les renvoie à une image que la société a bannie, c'est l'image de la prostituée, c'est en tout cas une image qui ne colle pas avec ce qu'elles veulent être. Donc il y a l'image du physique, telle qu'on l'a définie dans les magazines à un mode tel qu'il faut être, avec la grossophobie, comme vous l'avez dit, et il y a aussi l'image de moi excité. Il y a beaucoup d'obstacles à vaincre pour être libre, en mettant plein de guillemets autour, dans sa sexualité.
Samuel ?
Ce qui est très difficile, c'est de s'engager dans un rapport sexuel, c'est-à-dire de rencontrer l'étrangeté du corps de l'autre quand on a déjà tant de mal à faire face à la propre étrangeté de son propre corps. Il faut avoir une colonne vertébrale solide pour pouvoir s'engager dans un rapport sexuel. Mais pour ça, il faut déjà se sentir bien avec soi. C'est extrêmement difficile de s'engager, et je trouve que tu en parles très bien, Judith, de s'engager dans un rapport sexuel quand on se trouve pas beau, qu'on n'est pas en phase avec son corps pulsionnel, c'est une violence. J'irais même jusque-là. Quand on en vient à se forcer, à se contraindre, à avoir un rapport sexuel, parce qu'il faut avoir un rapport sexuel, parce qu'il faut jouir, parce qu'il faut se montrer excité, comme vous le dites très bien, Philippe. Moi, je trouve ça extrêmement dur. Et pour autant, j'ai bon espoir, parce que moi, je le vois en consultation, moi, j'essaie de dédramatiser, dédramatiser la sexualité, de dédramatiser le rapport au corps et de libérer quelque chose de ce que vous avez nommé, qui est le biopolitique. La manière dont tout un organisme social force les gens et leur font intégrer des conduites oppressives, aliénées, mais qui ne sont pas elles.
Coco,
moi je rebondis sur ce que dit Samuel. J'ai rencontré plusieurs femmes qui se disaient hétérosexuelles, qui en fait ont du mal à coucher avec d'autres femmes parce qu'elles sont in primis dégoûtées par leur propre sexe, et donc comment elles pourraient finalement toucher un sexe similaire au leur. Mais j'ai une autre question pour vous, Samuel et Philippe. Comment concrètement fait-on quand notre couple est un peu en crise pour montrer à l'autre qu'on ne veut pas juste la baiser, mais qu'on l'aime profondément? Par exemple, si cette personne peut avoir des complexes, comment dédramatiser en fait?
lui parler. Je crois qu'on oublie, et ça, Judith, je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que ça fait écho à ton introduction. Le sexe, vous savez, c'est pas une histoire de corps. Enfin, bien sûr, c'est une histoire de corps, mais c'est d'abord une histoire de psyché et de langage. Le sexe, ça se parle. On peut rencontrer cette étrangeté dont je parlais précédemment en parlant de sexualité, et c'est le premier pas vers cette dédramatisation. C'est oser parler de sexe, de ses fantasmes, de ses complexes, de ses doutes à la personne avec qui on a choisi de faire sa vie. Et parfois même, si on... C'est parce que ça pose cette question-là, et Philippe, je pense que vous allez rebondir sur le sujet, mais ça pose la question, doit-on ? En somme, est-ce qu'on doit toujours aimer et désirer la même personne au même moment, toute une vie ? Est-ce que ça, c'est pas non plus une injonction ? Je me pose la question. Est-ce qu'il est possible de désirer la même personne toute une vie, quelles que soient les crises ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit tenable psychiquement, même si notre société aime bien le modèle, encore une fois, hétéronormé, fidèle à tout prix, même si ce mot veut finalement pas toujours dire grand-chose. Voilà. Philippe, je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, il y a deux questions. Là, je vais répondre à ce que vous venez de dire. Je pense que c'est possible, mais on n'est plus dans une dimension sexuelle. On est dans une dimension de désir où on a peut-être dépassé ce qui est le propre de la sexualité, qui n'est pas la fidélité. Pour moi, n'est pas le propre du sexe. Je pense qu'on est des êtres profondément à multipartenaires, avec un désir extrêmement riche, avec un besoin d'expérimenter. Et il est évident que ce besoin n'est pas forcément comblé, voire rarement comblé, si on se contente d'une seule personne. C'est par exemple le cas de ces couples qui se sont formés très jeunes. Ils se sont connus au lycée, ils n'ont connu que l'un et l'autre. 20 ans après, je les vois dans mon cabinet ou dans le cabinet d'un thérapeute, parce que là, ça commence à bousculer. Il y a envie d'expérimenter, de découvrir d'autres sensations. Par contre, il y a une dimension du désir. Il y a un désir du corps qui existe. Il y a un désir qui naît, et ça va rejoindre la première question, comment on fait. Il y a un désir qui peut naître aussi du simple, ce que j'appelle le câlin. Pour moi, le câlin, ce n'est pas sexuel, c'est le contact entre deux corps. Je parle dans mon livre de quelque chose que j'appelle le câlin gratuit, c'est-à-dire ce moment où on peut se donner de l'amour, de la tendresse, de la douceur, sans que ça soit un préliminaire ou vécu comme un préliminaire à un acte sexuel. Et bien souvent, les hommes ont été éduqués à n'avoir de câlin que à l'occasion de rapports sexuels. Ils mélangent un peu les deux. C'est-à-dire, si on fait un câlin, c'est que derrière, on va avoir le droit à plus, on va avoir le droit à un rapport. Déjà, séparer les deux permet d'ouvrir un espace de douceur, de tendresse, d'échange et de parole, parce que, comme le dit Samuel, le sexe, c'est avant tout un dialogue entre deux personnes, et plus ce dialogue s'ouvre, et justement, je trouve que le câlin, c'est une occasion d'être peau à peau et de se parler de l'intime, là, on arrive à créer quelque chose, et cet espace qu'on peut créer, cet intime-là, lui, peut être prometteur d'une fidélité, en tout cas, d'une construction unique sur le long terme.
Moi, j'aime beaucoup ce concept de câlin gratuit. C'est marrant parce que j'ai lu votre livre pile au moment où moi, j'en étais arrivée à l'exacte même conclusion dans ma vie privée à moi, à demander des gestes gratuits, justement, qui n'impliquaient pas forcément de suite. Parce que ce qui est terrible dans les scripts sexués hétéronormés, c'est que le sentiment qu'on a, en tout cas le sentiment que j'ai et que je pense d'autres femmes ont, qu'à chaque fois qu'à chaque geste donne un consentement implicite à un autre geste, puis un autre geste, puis un autre geste. Ça veut dire qu'un mec te fait un massage, puis 10 minutes après, tu te fais engueuler parce que tu l'as pas sucé. Alors, je caricature, je grossis le trait, évidemment, ça se passe pas toujours comme ça, mais il y a toujours quand même, c'est vrai, c'est toujours présent, que chaque geste en implique un autre, en implique un autre, en implique un autre. Et je crois qu'il y a beaucoup, ça paraît très simple, votre théorie du talent, enfin votre théorie, votre conseil du câlin gratuit, mais moi, je la trouve très, très belle. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se toucher ailleurs que... Enfin, de dégénitaliser nos intimités.
Oui.
Voilà, en tout cas, c'était mon édition. Voilà. Non, mais moi, je pense que c'est une urgence même. On a vraiment besoin qu'on nous caresse dans le cou, qu'on nous caresse derrière les genoux, qu'on nous touche les pieds. Enfin, il y a rien de plus violent, je trouve. Quand, enfin, moi, y a, c'est quelque chose qui me brutalise quand je suis en rapport intime avec un mec et qui me touche que, qui juste les lèvres, les seins et la chatte. Je suis désolée, il faut appeler une chatte. Je trouve ça extrêmement rabaissant pour moi, mon corps, qui je suis, quoi. J'ai envie de dire, mais je suis une personne entière. Je ne suis pas une poupée gonflable avec trois trous, quoi.
Bah, moi, j'adore ce que Judith vient de dire parce que je trouve que c'est vraiment une révolution romantique pour moi, cette idée de ce que j'appelle en fait le soin et la valorisation d'autres langages verbaux et corporels. Et je pense que bon, dans l'intro de l'émission, en rigolant, on dit « Gwyn Réac ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, plusieurs fois, dans ma vie, j'ai pris la position justement de la tendresse et d'une sexualité un peu différente de la brutalité qui existe aussi dans le monde queer et qui est beaucoup, qui est un peu survalorisée, je trouve. Moi, j'ai pas eu de vie sexuelle pendant 2 ans, par exemple, plus de 2 ans. Et cela a été souvent considéré comme un échec. Donc, on me regardait avec pitié ou alors on me regardait comme une espèce de nonne excitante. Et la vérité, c'est que même si c'était super dur à des moments, je ne voulais pas me forcer à désirer. Et ça m'a permis de savoir ce que je voulais en général et que du coup, de développer toute une réflexion autour justement du câlin gratuit. Et donc, je me demandais, est-ce que on peut aussi des fois arrêter de désirer à tout prix, comme le dit l'auteur Tal Madesta dans son essai.
Désirer, mais je pense que c'est ce que tu disais, Samuel. Parfois, il faut aussi accepter que c'est pas notre moment, tout simplement.
Oui, et je voudrais quand même rebondir. Je vais revenir après, Coco, sur ce que tu disais, mais je voudrais revenir aussi sur cette idée du câlin. Philippe, je vous rejoins absolument, totalement sur ce sujet, puisqu'il faut pas oublier que le câlin, c'est ce qui origine notre vie physique et psychique. Je veux dire, dans les premiers instants de la vie, sans câlin, on meurt. Il y a cette expérience de Bowlby qui montre des singes. Dans un cas, il y a un singe sur une armature métallique et il a à manger, le petit singe, autant qu'il veut. Dans l'autre, il est sur une peluche toute douce, contenante, enveloppante, et il n'a pas de nourriture, mais il a cette douceur. On se rend compte que le singe qui a à manger, moi je me déteste ces expériences parce que vous savez que j'adore les animaux, mais tant pis, le singe qui reçoit la tendresse, la douceur, vit plus longtemps, survit plus que le singe qui a à manger. On a un besoin vital de tendresse et de câlin. Et sur la question, Coco, des milieux cuir, queer et non pas cuir, mais ça se rejoint parfois, c'est un petit lapsus que je m'autorise, c'est vraiment une idée reçue, je pense. Et je sais que tu en as parlé récemment dans un de tes textes que j'ai pu lire. Il y a une grande stigmatisation qui se fait quand même hein, sur les communautés queer et les communautés BDSM. Moi, j'ai pu aller dans des soirées fétiches, dans des soirées BDSM, et j'étais surpris. Il y a ce qu'on appelle les pups, donc ces garçons souvent qui s'habillent en chien. Ils passent leur temps à se faire des poutous, des câlins, des bisous. Enfin, c'est trop pour moi même. C'est trop pour moi. Moi, je peux pas. Au bout d'un moment, c'est l'overdose de câlins. C'est beaucoup trop. Mais le câlin, ça sauve la vie, ça sauve le couple. Et là, je ne serai pas sur mon terrain. Les neuroscientifiques l'ont très bien montré. Quand on fait des câlins, nos cerveaux sécrètent des hormones qu'on ne sécrète à aucun autre moment. Donc Judith, je te rejoins, le câlin, ça nous sauve la vie.
Eh ben, je profite de vous dire qu'on va faire une mini pause. Donc si vous êtes avec quelqu'un, là c'est le moment de lui faire un gros câlin. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours Self Care ta mère, le talk d'après la pluie. Je profite de cette petite pause et d'avoir votre attention pour vous dire que si vous aimez cette conversation, n'hésitez pas à la poursuivre avec nous sur Instagram en suivant Binge Audio. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Arlin et de Coco et de Samuel en train de nous demander si nos vies sexuelles sont des échecs. Il y a un énorme sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est celui de la dichotomie maman-putain. Il y a à cause du patriarcat et de la société sexiste dans laquelle on vit, pour les hommes hétéros, il y aurait 2 types de femmes. Celles avec qui tu t'éclates, tu fais des trucs de fou qui sont les putains. Et celles que tu aimes et que tu respectes qui sont les mamans. Vous, qui êtes au contact d'hommes dans leur plus grande intimité, j'aimerais vous poser une question un peu peut-être voyeuse, mais j'assume. Est-ce que les hommes vous parlent comme ça des femmes dans l'intimité de vos cabinets de consultation, Samuel ?
Oh oui, oui, oui.
Ah
oui.
Non, c'est vrai.
Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai même un exemple très précis. En plus, une personne qui se reconnaîtra, qui écoute notre émission, un de mes patients, et on fait un gros travail sur ce sujet-là. Mais bien sûr.
Est-ce qu'on va pouvoir s'en débarrasser de cette dichotomie, Philippe ?
Alors, ça va dépendre des cas, mais moi, j'ai, en tout cas, je confirme ce que dit Samuel, j'ai des dizaines d'exemples, et j'en cite un dans mon livre, d'hommes. J'ai un homme qui a quitté, j'en parle dans mon livre, j'ai un homme qui a quitté une de mes patientes avec qui il s'éclatait au lit, et à un moment, il lui dit, bon, bah, écoute, voilà, je te quitte, et quand elle lui demande pourquoi, bah, il lui explique, bah, je t'ai jamais caché que j'avais envie d'avoir des enfants, et t'es quand même pas le genre de nana avec qui on fait des gosses.
Ah, voilà, meilleur exemple, c'est le meilleur exemple.
Des claques, comment vous faites pour pas leur mettre des claques?
Derrière, il lui répète, parce que c'est quand même un mec gentil, mais par contre, si t'as envie qu'on reste amant, il n'y a pas de problème.
Oh là là. Ah oui, non, c'est encore pire. Et oui, donc c'est allez-y, continuez. Ouais. Et vous arrivez à travailler avec lui, à déconstruire ça quand même?
Cette patiente qui est devenue un peu ma patiente fétiche, parce que je crois qu'elle est dans deux de mes livres, on a fait tout un travail derrière parce que elle n'était vue que comme la putain. C'est-à-dire que personne, entre guillemets, ne la prenait au sérieux parce que c'est une femme qui désire. Elle était quand même du genre, dès le premier rapport sexuel, à sortir du placard des jouets et pas des jouets pour elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle l'a vu, la panoplie des hommes. Elle a eu des hommes qui devenaient éjaculateurs précoces, qui bandaient pas, qui. Elle a tenu et elle venait de voir parce qu'elle était désespérée et que le seul avec qui ça avait bien fonctionné, c'est celui qui à la fin lui dit je te quitte parce que j'ai envie d'avoir des enfants.
Non, mais ça, enfin, cette histoire, en fait, elle est vraiment extrêmement représentatrice de l'étau dans lequel on est pris, les femmes hétéros. Soit si tu t'éclates au lit, tu vas te faire larguer ce que tu leur fait peur, soit tu fais l'étoile de mer et puis en fait quoi qu'on fasse, c'est ce que je disais en intro, quoi qu'on fasse en fait on fait mal quoi.
Exactement, et il faut tout être. Faudrait que vous soyez tout. La mère, la putain,
temps,
la maîtresse, la sœur, la fidèle, l'infidèle, le support du fantasme. Enfin, faut être tout. C'est pas possible. On n'attend pas autant de choses d'un homme. Ça, j'en suis convaincu.
Les hommes avec qui vous travaillez, je reviens là-dessus, Philippe, ils arrivent à évoluer quand même sur cette question maman.
Vachement. Et là, je crois qu'il faut quand même rapporter ça ici, c'est qu'on est surtout dans un problème de communication. Et si on explique les choses, si on prend le temps, si on y met de l'humour aussi, parce que pour moi, c'est très important de désacraliser, de mettre de la légèreté, tellement ça leur pèse déjà dessus. Il n'est pas question de culpabiliser, il est question d'éclairer, de leur faire comprendre comment ils ont pu en arriver là, parce que de même, dès qu'on éclaire la chose de l'intérieur, ils n'en ont pas spécialement envie. C'est pas volontaire, c'est pas sadique, c'est pas. Et de même, ils sont les premiers à s'emparer. Alors, je dis pas que ça se fait en deux jours. Hein. C'est une thérapie, c'est un travail. Mais j'ai vu beaucoup d'hommes s'engager sur ce type de chemin et en vraiment y arriver et se transformer. Ce n'est en aucun cas une condamnation ni une fatalité.
C'est déjà ça. C'est déjà ça.
Après, il y a
ouais.
des surprises Samuel. Parfois troublantes. Si on pense au donjuanisme, vous savez, je vais garder cette expression un peu désuète, mais qui parlera à nos auditorices. Ce sont, vous savez, ces hommes qui ont vraiment besoin, pour le coup, de multiplier les partenaires sexuels, qui couchent avec des femmes. Mais très, très vite, en analyse, en tout cas, je m'en rends compte. Souvent, ce sont des hommes qui cherchent, en réalité, la femme pourvue d'un phallus et qui n'assument pas forcément leur homosexualité. Ça, je l'ai vu très souvent, Philippe. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je m'en suis rendu compte souvent. La question de l'identité sexuelle et du refoulement, waouh.
Il cherche l'objet. C'est exactement ça, Samuel. Il cherche l'objet. Et souvent, l'objet, c'est le phallus manquant, effectivement. Moi, je le constate aussi.
Ah oui, donc c'est des personnes qui n'assument pas en fait, de chercher un homme et qui pensent que c'est juste que cette femme-là ne leur correspond pas, qui en cherche une autre, mais qu'en réalité, ils se...
En tout cas, il y a une insatisfaction dans leur sexualité parce qu'il y a une boulimie. La boulimie, ce n'est pas le plaisir de ce qu'on mange. Hein. C'est on cherche.
Exactement. Sans pouvoir combler le manque. Et puis si on va aussi sur ce terrain-là, ça pose aussi la question de tous ces hommes qui n'osent pas explorer leur zone anale. Hein, de manière
Ils n'osent pas explorer leur zone anale. Et moi, je dirais aussi, troisième élément, et on n'y répondra pas aujourd'hui, c'est aussi des hommes qui ne savent pas chercher de l'affectif. Et qui ne savent... En gros, ce dont ils ont besoin, c'est d'un immense câlin. Mais comme ils ne vont chercher que du cul, ils n'ont jamais le câlin qui va avec, ils ne s'y abandonnent pas, et donc ils n'ont jamais la réponse pour assouvir et apaiser leur corps.
Très juste. Et c'est pour ça que ce sont aussi souvent des hommes qui ont des relations amicales très longues, très loyales, très fidèles et presque amoureuses en réalité.
Eh ben, on en apprend sur les donjons. Alors, je dis juste, je pense qu'on l'aura compris à vous écouter, mais on fait la différence. On n'est pas en train de slut-shamer ni les hommes, ni les femmes, ni n'importe qui. C'était juste pour dire ceux qui sont dans une boulimie sexuelle qui ne les satisfait pas. On n'est pas en train de dire que si vous couchez avec tout le monde... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Coco, tu voulais nous parler d'un concept que je trouvais très intéressant, qui était celui de la dépossession sexuelle.
La dépossession sexuelle est une chose que je pense peut-être d'autres personnes queer ont vécu et qui commence pour ma part avec le coming out, c'est-à-dire le fait de dire, de devoir rendre des comptes au clan, à la famille, à la société, de ce qui nous plaît dans notre intimité et voire dans notre chambre à coucher. Et donc, par le coming out, ma sexualité a été impudiquement soumise au jugement et j'ai finalement... commencé à penser qu'elle ne m'appartenait pas vraiment. Et j'ai donc investi mes partenaires du rôle de détentrice de ma sexualité. Et en leur déléguant cela, quand elle partait, quand on se larguait, je me retrouvais dépourvue d'une sexualité. J'étais persuadée que je ne pouvais pas avoir une sexualité toute seule. Ensuite, j'ai appris qu'on peut avoir une sexualité toute seule et aussi qu'on peut prendre l'initiative de chercher sans complexe des partenaires de cul. Mais voilà, ma question, peut-être avec Samuel pour commencer, si le désir féminin est soumis à celui des hommes, dans une société hétéropatriarcale bien sûr, les désirs des personnes queer sont-ils dépendants des désirs hétéronormés ?
Oui, ça c'est vraiment quelque chose que je pense. Je pense vraiment qu'on transporte quelque chose de cette oppression dans notre vie érotique et qu'il est très 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 difficile de s'en libérer. Je pense que de manière générale, il y a un vrai stigmate sexuel qu'on porte. On peut être très très stigmatisé dans nos envies. Judith, tu as mis un avertissement à juste titre en disant attention, on ne fait pas du slut-shaming. Mais moi j'espère vraiment que c'est tout l'inverse, qu'on va sortir de cette pensée straight, comme dirait Monique Wittig, et qu'on va réussir à surmonter quelque chose du stigmate, de l'assignation, de l'injonction et de comprendre qu'encore une fois la sexualité c'est une identité à construire de manière perpétuelle et de manière créative.
En fait c'est ça, et est-ce que c'est correct pour toi de dire que quand on est des catégories sociales oppressées, on est dépossédé de notre sexualité et donc on peut avoir la sensation de la rater finalement?
Oui, et là où c'est surprenant, et je vais revenir à cette question du fétiche, c'est qu'on trouve même une reproduction de ce stigmate que tu décris à l'intérieur de notre propre communauté. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la Gay Pride. Certaines personnes voudraient qu'à la Gay Pride soient exclues les personnes fétiches, les personnes qui aiment le cuir, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vraie reproduction en disant ce sont des malades mentaux, etc. De la même, alors que les gays ont eux-mêmes subi en fait ce genre de rejet. Tu vois, donc je te suis totalement quand tu parles des mécaniques intra-oppressives de notre communauté queer.
Philippe, vous voulez intervenir ?
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas l'hétérosexualité, mais l'hétéronorme qu'il faut utiliser comme terme. C'est-à-dire le fait qu'on est dans une société où on est persuadé qu'on ne peut être attiré que par l'opposé de nous-mêmes. Et cette hétéronorme, elle pèse aussi sur les couples homosexuels. C'est-à-dire qu'on a beau être dans une relation avec des hommes, on n'a pas échappé pour autant à cette hétéronorme où il y aura, pas dans tous les couples, bien sûr, mais où il y aura quand même celui qui fait l'homme, celui qui fait la femme.
Alors, et c'est une expression un peu désuète, oui, expression. Voilà, allez-y, oui, oui.
Je la reprends, pourquoi ?
Parce que
moi,
j'ai travaillé
sur une ligne d'écoute qui s'appelle la ligne Azur, qui est une ligne où les hommes pouvaient appeler quand ils s'interrogeaient sur leur orientation sexuelle. Et quand un homme avait eu des rapports sexuels avec un autre homme, s'il avait été passif, il nous expliquait qu'il avait fait la femme. Et ce n'était pas une autre expression qui venait, il avait fait la femme. C'est-à-dire que vient se véhiculer, y compris dans un rapport homosexuel, c'est-à-dire entre deux hommes, vient se véhiculer cette hétéronorme, ce qui fait que si je suis avec un homme, alors à un moment donné, moi, je suis une femme. Si je ne me sers pas de mon pénis, c'est que je suis donc une femme. Et quand on regarde ce qu'est l'homophobie, c'est pas la haine des homosexuels, c'est la haine des femmes, c'est la misogynie qui est transvasé dans l'homosexualité. On n'a jamais traité quelqu'un d'enculeur, on traite quelqu'un d'enculé. C'est toujours le passif qui est pointé du doigt. C'est l'homme qui a la chance d'avoir des couilles et qui ne s'en sert pas et qui se comporte donc comme une femme. C'est la haine des femmes. L'homophobie n'est rien d'autre que la haine des femmes. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça ne disparaisse pas.
Et c'est très intéressant parce que ça rejoint cette idée qu'on a toujours inconsciemment dans notre société que pénétrer, c'est quand même un peu déshonoré. Et ce qui est tragique.
Ce qui est complètement tragique. Ouais, et puis surtout que quand on... Enfin, je veux dire, là, à un moment, si on parle de sodomie, quand on est passif, on ne l'est pas du tout. Hein. C'est une vraie discipline. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir porter. Ça invite à penser son corps. Mais Coco, je trouve que c'est très, très fort. Je reviens encore à ta question initiale. Je trouve que c'est très fort cette question du fait d'être interpellé à se justifier sur ses choix, sur qui on aime, sur comment on fait l'amour. Une personne hétérosexuelle, hétéronormée, n'aura jamais en fait à fournir de telles justifications. Moi, on m'a posé des questions, on m'a fait des remarques qu'on n'aurait jamais fait à quelqu'un d'autre. Une simple tenue. Pour Halloween, je me suis fait un look pas possible, en cuir, etc. On m'a dit, là, Samuel, machin, est-ce que c'est bien de montrer, machin, les fétiches? Alors déjà, j'ai dit pas de bol, c'est même pas mon fétiche, premièrement, c'était juste pour le plaisir. Et surtout, pourquoi est-ce que je devrais me justifier, en fait? Pourquoi, quand on est gay, lesbienne, queer, pourquoi on doit toujours se justifier sur ce qu'on fait, sur ce qu'on porte, sur qui on embrasse, qui on câline? Pourquoi?
Mais c'est vrai que le concept de, excuse-moi, juste le concept de coming out en soi est problématique. Quand t'es hétéro, tu vas pas dire à tes parents « Salut, je suis hétéro ». Quand on sera dans une société égalitaire, on n'aura plus rien à annoncer à personne. En fait, déjà, ça regarde personne.
Mais bien sûr, et juste, je tiens à préciser pour que tout le monde se sente incluse dans cette émission, les coming out n'est pas seulement le coming out d'une sexualité, ça peut être aussi le coming out d'une transidentité, ça peut être aussi le coming out d'une asexualité. Et c'est pour ça que je dis, attention, il faut pas désirer à tout prix, il y a aussi le domaine de la sexualité. Et en fait, imaginez par exemple une personne qui, jeune, dit « bon, je suis lesbienne », et puis en fait, elle découvre que finalement, il est trans. Donc, il y a un autre coming out, il a plusieurs coming out, plusieurs justifications. C'est absolument tragique, et donc je rejoins totalement Judith sur l'intrusivité et la violence du coming out, quoi.
Oui, puis tu attends le verdict, comme si on te disait si t'étais valable ou pas. Enfin, c'est quelque chose.
L'autorisation.
C'est exactement ça, l'autorisation. Oui, Philippe.
L'homosexualité, en tout cas, on doit être validé par les détenteurs de l'hétéronorme.
C'est ça.
C'est eux qui doivent valider. En gros, ils continuent à être les détenteurs de la sexualité et ils nous signent un passe-droit pour vivre nos pulsions, qui sont d'ailleurs, et je dis exprès des pulsions, parce que pour eux, c'est quand même de l'ordre de l'instinct. C'est pas noble comme l'hétéronorme. C'est un petit peu animal. Donc, on a un blanc-seing, ou on ne l'a pas d'ailleurs, pour vivre nos pulsions, nos fétichismes, nos déviances. Donc, quelque part, on est effectivement totalement dépossédé de notre sexualité à partir du moment où elle n'entre plus dans le champ prédéfini par l'hétéronorme.
Exactement. Ce que le philosophe Michel Foucault nommait une biopolitique, une politique qui instrumentalise les corps.
Et alors, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, qui est celui de l'orgasme gap ou du fossé orgasmique, enfin, je ne sais pas comment le traduire exactement, qui est un sujet qui me met très en colère. C'est-à-dire que nous, les meufs hétéras, on est celles qui ont le moins d'orgasmes dans leur rapport sexuel de tout l'éventail de sexualité. Les dernières statistiques que j'ai lues, c'est les lesbiennes sont 86% à avoir eu un orgasme à leur dernier rapport sexuel. Les mecs hétéros, 95%, tranquille. Et les hétéras, 65%. Enfin, c'est quand même... C'est quand même, et je trouve, alors je sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, au féminisme, etc., j'ai été révoltée de me rendre compte que le script sexuel qu'on m'avait enseigné, c'était celui d'être une servante, en fait. Ça veut dire que tout s'arrête quand le mec a joui. C'est là que tout s'arrête et se pose même pas la question. Ah, alors attendez, parce que après, évidemment, parfois ça se passe pas comme ça. Heureusement, il y a quand même des amants, etc., avec qui on explore, on fait les choses autrement. Mais ce qu'on nous enseigne quand même, c'est grave, quoi. Enfin, moi, ça me met très en colère. Très, très en colère, ce scénario.
Mais moi, ça me met d'autant plus en colère que quand on entend le chiffre de 95% d'hommes qui ont des orgasmes, mais c'est pas selon moi. C'est un mensonge. Les hommes confondent éjaculation et orgasme.
J'allais la dire.
Ah, intéressant.
Mais les hommes n'ont pas d'orgasme. Majoritairement, les hommes n'ont jamais eu d'orgasme. L'orgasme, c'est un truc très précis qui va solliciter entièrement le corps. Et donc, dans tous ces hommes à 95%, j'aimerais bien savoir ceux qui ont dépassé la génitalité de leur orgasme. Excusez-moi, ça m'énerve, mais c'est totalement dans notre sujet. Ils imposent jusqu'aux critères de la jouissance. il y a, l'homme peut avoir des orgasmes, et bien sûr, et moi je m'emploie à leur apprendre à en avoir. Mais déjà, il va falloir se déphallocentrer la sexualité. Parce que s'ils veulent avoir un orgasme, il va falloir qu'ils apprennent à se servir de leur pénis. L'orgasme, c'est une mise en résonance du corps. Et cette mise en résonance du corps, elle ne peut être faite que si on sollicite plusieurs zones. C'est-à-dire que si les hommes ne sont pas un minimum conscients de leurs tétons, s'ils ne sont pas un minimum conscients de leur anus, s'ils ne sont pas un minimum conscients de leur prostate, de différentes zones érogènes de leur corps, ils n'auront en tout et pour tout que le plaisir poussif des contractions de la prostate lors de l'éjaculation. Et excusez-moi, je maintiens, c'est poussif. Par rapport à ce qu'est un orgasme qui envahit intégralement le corps, par stimulation de la prostate, par stimulation des différentes zones érogènes, qui s'accompagnera d'ailleurs ou pas d'une éjaculation.
Oui, c'est ce que disait Martin Page dans son livre « Au-delà de la pénétration », que si on s'intéressait seulement au plaisir, les hommes seraient bien davantage pénétrés et les femmes beaucoup moins. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'on confond éjaculation et orgasme et que du coup, c'est aussi une façon d'être dicté dans qu'est-ce que jouir, quoi. C'est vraiment très intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on reste dans l'idée que le rapport sexuel doit mener à une grossesse ou à la reproduction parce que l'éjaculation…
Au plaisir de monsieur.
Oui.
Et là encore les sexualités dissidentes ont beaucoup à nous enseigner parce que vous pouvez échanger avec des hommes et des femmes parce que oui, une femme, et ça il faut le dire et le redire, peut être fétiche, peut avoir peut être dominatrice, peut être tout ça. Il faut vraiment libérer cette parole-là parce que la psychanalyse a fait beaucoup de dégâts. La psychanalyse a fait beaucoup de dégâts en inscrivant la femme dans une sorte de position complètement passive, complètement soumise au plaisir de l'homme. Donc ça je le glisse. Mais si vous discutez avec des personnes fétiches, par exemple, certaines vont vous dire oh, j'ai pris un pied pas possible, j'ai été immobilisé sous un vague-bain, donc c'est une espèce de pellicule de latex qui recouvre et immobilise la personne, il se passe rien, il n'y a pas de contact, c'est juste un enveloppement, et pourtant la personne va vous dire j'ai pris mon pied, j'ai aimé ça, j'étais contenu, j'ai vécu un moment hyper intense. Il y a même cette dégénitalisation du plaisir dont tu parlais Judith, quand par exemple il y a certains hommes qui disent, qui prennent leur pied en portant une cage de chasteté. C'est complètement paradoxal de dire que quelque chose qui est fait pour interdire le rapport sexuel va leur apporter du plaisir. En somme, les voies du plaisir ne sont pas forcément celles, effectivement, de l'éjaculation, ce sont celles de s'épanouir dans un imaginaire érotique qui nous convient.
Et puis, je pense qu'il est important de rappeler qu'on est égaux, si on le veut, on a deux types de jouissance. L'homme et la femme ont une possibilité d'éjaculation. L'éjaculation féminine est quelque chose qui existe, qui est très naturel. Et l'homme peut aussi avoir un orgasme, comme la femme, lié à la pénétration et à la stimulation de sa prostate. Donc, parlons d'égalité, parlons d'échange, parlons de partage et arrêtons justement de diviser.
Est-ce que, du coup, on peut aussi arrêter de croire qu'une sexualité réussie, c'est d'avoir des orgasmes ? Parce que je pense que, là, on voit 86% de lesbiennes arrivent à avoir un orgasme. Je pense que le 14% restant, c'est juste qu'elles prennent du plaisir, mais sans forcément avoir d'orgasme. Donc, est-ce qu'on peut dire que voilà, l'orgasme n'est pas le gage d'un rapport sexuel réussi dans les deux cas ?
Ce n'est pas le but du rapport sexuel non plus. On peut le définir comme un but. Pour moi, c'est le cadeau merveilleux qu'on peut se faire. Mais l'échange, le partage, le rapport sexuel, il commence dans la communication entre les deux êtres, la découverte de l'autre, le partage, les odeurs, les touchés, les contacts. Tout ça participe de la sexualité. Et un rapport sexuel épanoui ne se mesure pas juste à l'échéance d'une jouissance ou d'un orgasme.
Non, bien sûr. Je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, je pense, pour dire que l'orgasme n'est pas obligatoire à chaque fois. Cependant, je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi, si dans une relation, c'est toujours le même qui a des orgasmes et pas l'autre, que ce soit hétéro, homo, lesbienne, bi, whatever, je pense que quand même, il faut s'en interpeller. Enfin, c'est au moins se poser la question de pourquoi ça se passe comme ça. Là, je pense que vous êtes tous serez d'accord avec
moi. Exactement. Et c'est là qu'intervient ce langage dont on parlait, cette parole nécessaire.
C'est ça. Et ce qu'on nous apprend, nous, les femmes hétéras, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai appris dans ma génération, c'était de se dire que quand même, ce qui était le plus important, c'était que ton mec jouisse avant toi. Et ça, je maintiens, ça me met très en colère et je trouve ça très problématique.
Tu sais, c'est pareil vraiment dans, chez les gays. Hein, du moment où il y en a un qui a joui, on sent, enfin joui, éjaculé en tout cas, on sent que ça y est, c'est l'investissement est moins là. C'est tu vois, et c'est là par rapport à ce que disait Coco tout à l'heure, c'est là qu'on a on a emmené quelque chose de cette société hétéronormée, même dans nos rapports à nous. C'est que ça y est, on s'en occupe moins quoi. Ça y est, j'ai joui, c'est bon. Mmh. L'autre il peut un peu se débrouiller.
Oui, Philippe.
On est vraiment toujours sur cette notion que c'est l'homme qui dicte la fin du rapport. Quoi.
Voilà.
À partir du moment où il a joui, c'est terminé. Et puis, il va nous expliquer, parce qu'il y a plein d'arguments. « Ouais, mais moi, derrière, je suis crevé, j'ai plus envie. J'ai plus envie. » C'est quand même assez extraordinaire. Donc, il n'avait pas envie de l'autre. Il était juste excité et l'autre était à la bonne place.
Ah ! Ça m'énerve, ça m'énerve.
Et souvent, quand on est, pour le coup, et c'est là qu'on voit la différence, parce que quand on est en couple et qu'il y a vraiment un amour et un respect de l'autre, il y a quelque chose du soutien, justement, de la jouissance du partenaire.
Derrière, ça continue.
Voilà, merci Philippe, c'est ça, ça continue.
Bah, c'est ça, exactement, il faut que ça continue. Une vie sexuelle pour eux, n'est-elle pas forcément quand même un peu ratée pour dédramatiser ? On va forcément avoir des échecs, des ratés, des loupés, des moments gênants. Enfin, ça ne va pas toujours être sublime. On ne va pas tout le monde ne va pas toujours jouir dans des orgasmes magnifiques, comme vous le disiez. Ça fait partie du voyage, non ?
Oui, et il faut se libérer aussi des modèles, même si moi je suis rien, j'ai fait ma thèse avec un grand professionnel du porno en France, Eric Bidot, qui a vraiment étudié le sujet en profondeur. Je crois que la pornographie a quand même donné des modèles de réussite, de rapports parfaits, endurants, etc. Et on oublie que derrière, les personnes prennent des produits, que c'est des scènes tournées 1500 fois. Enfin, ça a donné quand même une modélisation idéale de la sexualité qui nous porte un certain préjudice aujourd'hui.
Bah, est-ce que, du coup, évidemment, notre titre « Avez-vous raté votre vie sexuelle ? Votre vie sexuelle est-elle un échec ? » C'est un titre provocateur. Est-ce qu'on peut vraiment appliquer ce mot d'échec ou de ratage à une vie sexuelle ?
Moi, je pense que non. Et surtout, la bonne nouvelle que j'ai envie de donner, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour la réussir. J'ai vraiment, pour moi, la sexualité, c'est quelque chose qu'on va construire tout au long de notre vie. Ce qui est important, c'est pas où on était hier, mais c'est où on peut souhaiter être demain. Et il y aura toujours un demain en sexualité si on le souhaite. Il faut vraiment comprendre que la sexualité, c'est une source totalement malléable et que notre travail, c'est le travail de toute une vie, c'est de construire cette sexualité et on peut aller vers quelque chose de toujours plus libre, toujours plus heureux et de toujours plus accompli. Donc, la sexualité épanouie, c'est peut-être celle de demain, mais en tout cas, elle est possible.
Eh ben c'est très beau comme mot de la fin. On va se quitter là-dessus. La sexualité de demain est possible, peut-être même celle de tout de suite si vous avez envie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce fut un immense plaisir de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à partager cet épisode. On a besoin de vous pour grandir et être connus. Merci beaucoup à mes acolytes Coco Spina et Samuel Doc. Merci à notre invité Philippe Arlin. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex, notre réalisateur Quentin Bresson. Selfcare Ta Mère, c'est le nouveau podcast Mal-être de Binge Audio, tous les mois sur toutes les plateformes dans le flux d'Après la pluie. À très vite.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes ? Comment j'en suis arrivée là ? Est-ce que j'en veux des enfants ? Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait ? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
Getting caught in the wrong shoes can interrupt your plans for the day. Like when that 10% chance of rain ends up looking more like 100%. When the transition to fall and winter feels more like experiencing every season on the same day, there's the Allbirds Mizzle collection. These shoes were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures.
Cross off errands with the splash protection on the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with all-condition traction and reflective details on the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Mudguard on the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.